Alors on essaye. Donc mon titre, c'est que le désir n'a pas d'objet. Le désir n'a pas d'objet. Et au fond, quand simplement du point de vue de l'expérience qu'on peut en faire tout un chacun, nous savons, je dirais, intuitivement, tout de suite, qu'en effet, nous désirons avant de savoir exactement ce que nous désirons. C'est-à-dire, nous désirons sans savoir ni vers où on va, ni sans savoir pourquoi on y va. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous pousse, force que je prends ici sous l'intitulé du désir, force qui est plus forte que nous, je dirais même plus forte que notre vie, puisque cette force qui nous pousse, elle peut nous pousser, y compris vers ce que, par ailleurs, nous ne voulons pas, ou que nous pensons qu'il ne faudrait pas, mais nous y allons quand même. Voilà. C'est un petit peu comme disait Henri le navigateur, naviguer est nécessaire, vivre n'est pas nécessaire. C'est-à-dire quelque chose est plus fort que la vie elle-même, je dirais, qui nous pousse, et c'est sur, je dirais, cette absence d'objet dont on peut tous avoir l'intuition à chaque instant, hein, que je voudrais essayer de m'expliquer un peu, c'est-à-dire sur un point qui, après tout, non seulement est l'expérience intuitive qu'on peut avoir, comme je disais à titre d'introduction, mais aussi sur une expérience culturelle, je dirais, de quasiment toutes les civilisations, de considérer que la vraie vie n'est pas dans la vie, mais quelque chose qui est au-delà de la vie, d'après la mort, auprès du Père, en quelque sorte, d'un Père éternisé, c'est-à-dire quelque chose qui vous pousse peut-être dans la vie, mais au-delà de cette vie elle-même, quelque chose qui n'est pas sans objet, peut-être, c'est ce dont on va essayer de discuter, mais en tout cas qui n'est pas sans cause. Cette cause n'est pas ce manque d'objet lui-même, n'est pas un manque d'objet, je dirais, sur un modèle métonymique, c'est-à-dire d'un objet qui serait toujours au-delà de tout ce qu'on peut avoir, quelque chose qui prendrait en quelque sorte le désir sous le pli du mythe de Sisyphe, c'est-à-dire un objet qui serait toujours au-delà. Ce que je vais essayer de montrer, donc, de manière tout à fait corrélative, c'est que ça n'est pas la structure du signifiant qui renvoie toujours à un autre signifiant qui régit cette prégnance d'un désir sans objet. Voilà, donc je dis quoi là? Je dis à titre d'introduction que je vais naviguer courtement entre deux écueils. Premièrement, le désir n'a pas d'objet, bien qu'il ne soit pas sans cause, il naît du manque d'objet si on veut, et même de l'excès du manque, puisqu'on ne peut pas opposer l'excès au manque, c'est un point tout à fait important. Donc premier écueil que je vais essayer de bien baliser, et le deuxième, c'est que ce désir ne résulte pas de la métonymie signifiante, mais au contraire, la métonymie signifiante se capitonne, je dirais capitonne sa pulsionnalité verbeuse, verbale, grâce au sujet de ce désir sans objet. Je suis un peu elliptique, c'est introductif, et essayer de m'expliquer. D'abord en disant que Freud n'a jamais fait cette erreur de confondre la pulsion, le pulsionnel et le désir, ou bien si vous voulez, la pulsion avec le fantasme, c'est la même chose. S'il avait fait cette erreur, il n'aurait pas distingué la perversion polymorphe de ce qui n'a pas une très jolie appellation, mais qui veut dire quelque chose, de la génitalité. Il n'aurait pas fait cette distinction de manière extrêmement tranchée. Vous pouvez lire ça dans les trois essais. Hein. Vous pouvez lire dans les trois essais que Freud, après avoir très très soigneusement distinguer le sexe anatomique, le genre, le choix d'objet, le but sexuel, il fait remarquer que tout ça, eh bien, ça concerne sans doute des destins propres de la pulsion, mais ça ne dit encore absolument rien de l'excitation sexuelle. L'excitation sexuelle, c'est tout à fait autre chose. L'excitation sexuelle, c'est-à-dire le désir, on ne peut pas l'expliquer grâce à la pulsion. Donc le désir, c'est autre chose que la pulsion. Le désir résulte d'un refoulement pulsionnel, si vous voulez, de la même façon que la névrose est l'envers de la perversion. Le désir échappe à la gravité pulsionnelle par une sorte d'antigravité, si vous voulez. Il s'en arrache, il s'arrache du pulsionnel, et une fois qu'il a décollé, il n'a absolument plus rien à voir avec la pulsionnalité, sinon sous la forme d'un « c'est ce qu'il ne faut pas, c'est ce qu'il ne faudrait pas », c'est-à-dire une contradiction interne qui fait le propre de la jouissance comme distincte du plaisir. Particularité de la langue française et espagnole, de porter en elle-même ce terme d'une jouissance qui se contredit elle-même. Il ne le faudrait pas, et c'est pourtant exactement vers ça que le désir pousse. Ça, c'est pas le pulsionnel. Le pulsionnel, c'est ce qu'il faut ingérer, ce qu'il faut voir, etc. Le désir, c'est tout à fait autre chose. C'est régi par cette contradiction, par cette ce transport interne vers ce qu'il ne faudrait pas. Si bien que le désir peut très bien ne plus rien avoir à faire avec le corps, puisque c'est justement ce qu'il ne faudrait pas, le désir peut aller jusqu'à se détacher complètement du corps, dans cette contradiction avec le pulsionnel, avec le plaisir du corps et avec sa dimension incestueuse. Donc on voit bien où se situe le « ce qu'il ne faudrait pas ». C'est dans la dimension incestueuse elle-même qu'il se situe. C'est ça qui donne, je dirais, sa caractéristique potentiellement orgiastique à la sexualité humaine, c'est-à-dire cette sorte de court-circuit interne, tout à fait contingent, il est vrai, puisque l'orgasme, ça arrive ou ça n'arrive pas. Ce court-circuit ne se produit que dans certaines situations signifiantes où le « il ne faudrait pas » vient au premier plan. Voilà. Alors, ça, je suis toujours dans mon introduction, au fond, simplement, j'approfondis un petit peu les termes du problème, parce que j'ai pas encore dit, ou plutôt simplement rappelé, parce que ça fait quand même plus d'un siècle que ça devrait être clair, pourquoi le désir est sans objet. Pourquoi le désir est en quelque sorte d'abord mystique au sens plein, je vais essayer de l'expliquer, c'est-à-dire quelque chose qui est dirigé vers une certaine représentation paternelle. Pourquoi est-ce qu'il est d'abord donc, non seulement sans objet, mais hors corps, adressé au Père dès le départ? Voilà. La difficulté qui fait que c'est toujours si difficile à comprendre après un siècle, alors que ça... C'est vrai que c'est dit de façon complexe dans Freud, parce que c'est un complexe. Je crois que la difficulté, elle tient au fait que... Elle tient au fait qu'on a pris l'habitude de simplifier et de ne considérer que le résultat du complexe d'Oedipe sans faire attention à son processus. C'est-à-dire que ça n'est pas pris comme un processus, mais on a un résultat brut, simplifié, bébête même, et qu'en prenant ce résultat, on ne voit pas le développement et ce qu'il engendre du point de vue de la subjectivité, du fait de la prise de nom du sujet et du fait que ce sujet soit toujours sexué dans ce processus. Voilà. Alors, ce processus, il est en quelque sorte réglé par l'entrée dans le phallicisme, dans le plaisir d'organe, ou encore dans le passage d'être le phallus pour la mère à avoir un pénis ou un clitoris. C'est tout à fait tout à fait équivalent, c'est-à-dire la question que se pose l'enfant du point de vue de son aliénation, de comment échapper à l'être, sinon en l'ayant. D'où l'entrée, si vous voulez, dans toutes les formes de nanisme, le passage du passif de l'être à l'actif de l'avoir, mais, disons-le tout de suite, activité éminemment coupable, il ne faudrait pas, dès le début de l'onanisme, angoisse de castration, angoisse importante, sans aucune espèce de menace particulière sur l'enfant, donc activité coupable, puisque cette activité prive la mère du phallus qu'est le corps de l'enfant lui-même, et découvre donc la castration maternelle. Donc l'angoisse est quasiment dès le départ, comme l'a très bien rappelé Paul Laurent tout à l'heure, angoisse de castration, de la castration de la mère, et peur de la punition, peur d'une punition quelconque qui est, vous le voyez, tout de suite une punition jouissive, une punition masochiste, forcément, puisque c'est une punition qui accompagne l'entrée même dans la jouissance. Ça veut dire que punition et jouissance d'organes, pénienne ou clitoridienne, est dès le départ coupable et dès le départ liée à un masochisme érogène, je dirais, de principe de la sexualité humaine. Ça veut dire quelque chose qui s'engraine tout de suite au fantasme de l'enfant battu. C'est-à-dire que la fantasmatique, c'est la fantasmatique qui est première dans cet accès à la sexualité. Voilà. Accompagné de quoi ? Accompagné d'une peur, non seulement angoisse de castration, mais angoisse de perdre l'amour maternel du fait de priver la mère de justement ce qu'elle demande. Peur d'être infidèle à l'amour tout de suite. Angoisse de perdre l'amour. Ce qui fait que, dans un mouvement extrêmement serré, c'est ça qui fait difficile à appréhender, c'est, je dirais, du fait de cette angoisse que la punition est séparée de sa cause et la punition est prêtée à un père, c'est-à-dire le premier rôle mythique en quelque sorte du père, c'est de punir plutôt que la mère, et ceci pour préserver l'amour de la mère. Ce en quoi, je dirais, la présence du père, loin de séparer la mère de l'enfant, comme ça se dit dans les résultats, comme ça, en vrac du complexe d'Oedipe, eh bien, permet au contraire l'amour de la mère et de l'enfant, pacifie l'amour de la mère et de l'enfant. Voilà, j'utilise les images d'Épinal pour le dire, parce que je m'aperçois que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à saisir, que cet engrenage, cette façon de tourner de l'angoisse de castration, à partir de l'angoisse de castration de la mère, à une angoisse de castration par le père. C'est-à-dire le père comme agent de la castration, comme agent de la punition. Mais ne l'oubliez pas, cette punition est jouissive. Cette punition accompagne exactement l'excitation sexuelle. Par conséquent, la punition par le père excite sexuellement. Par conséquent, le père est non seulement l'agent de la séduction, de la punition, mais l'agent de la séduction est ce qui origine le désir. Le désir en tant que distinct de la pulsion, coupé de la pulsion, puisque la pulsion c'était lié au rapport à la mère, eh bien le désir a comme cause ce rapport au complexe paternel. Voilà. Donc vous voyez toute la série, tout l'engrenage des fantasmes fondamentaux dans ce moment clé que je suis en train d'essayer de décrire. Le père devient le séducteur et d'agent de la punition devient cause du désir. Je vais m'expliquer sur cette causalité du désir, la façon dont le père vient centrer le désir, qui est tout à fait central, parce que là on voit bien que c'est un hors-corps qui vient organiser le désir et qui fait, je dirais, du mouvement mystique le premier mouvement du désir. Hein, on dit comme ça, le mysticisme c'est au bout, beaucoup de sublimation, etc. Non, pas du tout. C'est quelque chose de premier dans le mouvement du désir qui déclenche quoi ? Qui déclenche vraiment la grosse cavalerie de la psychanalyse, ce grâce à quoi la psychanalyse a été découverte, c'est-à-dire le traumatisme sexuel par la séduction paternelle. C'est tout, je dirais. Je démonte le plus courtement que je peux, parce que je m'aperçois que c'est tellement délayé dans Freud qu'on finit par plus rien voir du tout. Je démonte le plus courtement possible ce moment où la séduction paternelle vient causer le désir et provoquer, dans ce passage de l'agent de la punition à la cause du désir, un amour du père et une attente du phallus du père. Voilà. On fait tout un plat, toute une difficulté de ce qui serait une bizarrerie. Comment les filles font pour passer de l'amour de la mère à l'attente du phallus du père? Et c'est la même chose pour les garçons. Je suis désolé, mais les garçons, eux aussi, attendent le phallus du père. Simplement, ils se battent contre, ils font la guerre tout de suite. Ils font la guerre. Ah ben non, ça on n'en veut pas. C'est toi qui es l'enculé, etc. Bon, les insultes des garçons, et puis des garçons plus grands, montrent bien qu'il y a cette peur, je dirais, première de la sodomie, ou une attente du phallus du père, attente du cadeau du père, qui vaut aussi bien pour les filles que pour les garçons. L'attente du cadeau du père, je dirais que c'est pas un mystère, hein. Les garçons l'attendent exactement comme les filles. Entrez dans n'importe quelle association psychanalytique et vous verrez les révérences faites au père. On attend bien quelque chose du père, et voilà, hein. Je passe sur les détails. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi en faire un plat, cette histoire de passage de la mère au père. Il n'y a pas de quoi en faire un plat du côté des filles, parce que vraiment, à la guerre près, ce qui effectivement masque tout, occulte tout, eh bien, c'est la même chose pour les garçons. C'est d'ailleurs ça qui les distingue comme garçons. Le fait d'être en rébellion contre leur féminisation, je dirais, hein, et leur désir du père. Voilà. Alors, ce que j'ai essayé de bien rassembler courtement, c'est en quelque sorte le point d'accrochage de tous les fantasmes fondamentaux, jusqu'au parricide compris, que je n'ai pas encore cité, mais enfin, ça va de soi que le parricide est en quelque sorte le revers direct de la séduction. Puisque le père séduit, et comme cette séduction est incestueuse, et donc meurtrière, on peut le dire, eh bien, la monnaie, la pièce rendue pour cette séduction, c'est ce meurtre du père, ce parricide, en quelque sorte, qui vient s'engrainer aux fantasmes fondamentaux et qui se déplie à partir du fantasme de séduction du père. Voilà. Alors, le fait de dire ça, vous voyez tout de suite qu'on a immédiatement un décrochage complet de toute espèce d'objectalité du désir. Le désir est sans objet. Le désir est sans objet, il a seulement un agent, ou plutôt une cause, un agent de la punition qui est aussi une cause de la séduction, mais c'est une cause qui est complexe, qui s'évanouit en même temps qu'elle se construit. Je vais dire pourquoi courtement cette cause s'évanouit. Elle s'évanouit de sa propre articulation qui est contradictoire, et qui, en la résumant, vous allez, pour ceux qui se cassent la tête sur un certain nombre de logification lacanienne, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit, parce que là aussi on fait tout un plat à propos d'une certaine difficulté concernant le pour tout homme et le au moins un. C'est tout homme qui est au moins un chaque fois qu'il est père. Tout homme fait exception chaque fois qu'il est père. D'accord ? C'est clair ? Chaque fois qu'un homme est père, pour son enfant, il fait exception, c'est-à-dire c'est lui qui est l'agent de la castration et qui dit non à la castration. Il fait exception à ce moment-là, puisque c'est lui qui castre. D'accord ? Voilà. Mais comme il fait exception et comme il castre, il séduit, etc. Donc, à titre de monnaie d'échange de son rôle de séducteur, eh bien, il est lui-même voué au parricide et à la castration. Donc il tombe dans la règle. L'exception confirme la règle. C'est tout. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire... Il faut voir simplement l'articulation du complexe paternel pour voir qu'il n'est pas possible de mettre d'un côté quelqu'un qui fait exception et de l'autre tous les hommes. C'est tous les hommes qui font exception dès qu'ils sont pris dans cette histoire du complexe paternel. Voilà. L'exception fait la règle, et du coup, du fait de cette embrouille du complexe paternel, où il y a deux positions contradictoires qui s'articulent l'une à l'autre, eh bien, la cause paraît sans cause, le désir paraît un désir vide, le désir qui nous pousse, comme je disais, à naviguer sans savoir vers où on va, ni ce qu'on fait exactement, pourquoi on occupe un samedi après-midi à écouter des histoires ou d'autres, on ne sait pas. Il y a le tango, ça nous justifie. Voilà, donc ce processus, quand on voit le problème en termes dynamiques, il y a lieu de reprendre cette façon freudienne de lire les processus, la dynamique. Un certain nombre de problèmes s'évanouissent dans leur propre opération, ce qui fait qu'on n'y voit plus que du feu, on ne voit plus que le feu du désir, plus exactement. Et voilà. Alors, donc là, je n'ai parlé que du premier écueil que je voulais essayer de baliser. Pour le deuxième écueil, ça va aller beaucoup plus vite, parce qu'il y a un certain nombre de termes qui sont déjà cernés. Ce deuxième écueil, il est facile à accrocher à partir de la question du parricide, puisque en s'affrontant au père pour sa sexuation et sa jouissance phallique, c'est-à-dire en étant confronté à la punition paternelle qui le fait jouir, c'est donc son propre désir, en quelque sorte, qui lui fait peur dans ce père qui bat, comme le disait tout à l'heure, encore une fois, Paul Laurent, la source de l'angoisse est aussi centrée par le désir lui-même. C'est tout à fait frappant, en effet, si j'ose dire. Voilà. Donc, en faisant cette opération, je dirais, de cette opération de rétorsion par rapport au parricide, le sujet se situe par rapport à sa propre jouissance, c'est-à-dire il a une prise à la fois sur son désir, un désir d'abord vide, une érection dans le vide, en quelque sorte, c'est comme ça que ça commence, l'érection, on ne sait pas où ça va, vers qui ça se tourne, etc. Eh bien, en faisant cette opération, qui est en même temps une opération de confrontation au père, donc une opération de prise de nom par rapport à ce père, parce que c'est pas parce qu'un enfant, on lui a donné un nom qu'il l'a pris, prendre le nom est une autre opération que de le recevoir, il le prend dans l'affrontement, pas autrement. Donc à ce moment-là, il le prend, et il est du même coup sujet portant un nom et sujet sexué. Il n'y a pas de sujet qui ne soit pas en même temps sujet sexué. C'est-à-dire qu'il se situe d'un certain côté par rapport à cette opération de prise de nom. Voilà. Prise de nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire prise de nom comme condition du capitonnage des phrases. Capitonnage des phrases, c'est-à-dire chaque fois que vous parlez en votre nom, implicitement, ou plus exactement, parce que vous avez pris votre nom, vous n'êtes pas obligé de dire à chaque fois d'énoncer votre nom quand vous parlez. Donc, vous prenez votre nom chaque fois que vous parlez, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une inhibition à parler du seul fait que l'acte de parler, qui est l'acte qui précède tous les autres, c'est l'acte de prise de nom. Puisqu'il faut d'abord qu'il y ait un sujet avant que ce sujet puisse faire n'importe quelle autre espèce d'acte. Donc, chaque fois qu'il parle, le sujet prend son nom, il peut être inhibé pour parler, simplement parce que, justement, il y a le sérieux, je dirais, de l'affrontement à la prise de nom, de l'affrontement au parricide. Hein, voilà, il le fait. Mais qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? C'est-à-dire, il va peut-être faire une phrase, c'est certain. Il fait une phrase où il essaye, il déballe un petit quelque chose, même sur le temps, n'importe quoi, il déballe un petit quelque chose, mais En même temps, c'est un fantasme important qu'il a mis en jeu pour parler. Et à partir de ce fantasme, qui était un des fantasmes, je dirais, clés de l'ensemble des fantasmes fondamentaux que j'ai décrits, c'est l'ensemble des fantasmes qui sont convoqués en parlant. Chaque fois que nous parlons, nous déroulons une certaine armature fantasmatique. Ça s'entend quand vous écoutez parler les gens, ils parlent, ou bien ils se plaignent, ou bien ils se plaignent, ils parlent du point de vue de l'enfant battu, ou bien ils essayent de séduire, plus ou moins, hein, plus ou moins, ou bien ils parlent de façon telle que leurs paroles soient séduisantes, donc ils déploient en même temps qu'ils parlent ce fantasme, ou bien ils sont dans une position, je dirais, agressive, et il y a le fantasme au bout de l'agression du parricide également qui revient, ou bien ils font un certain type d'exposé en opposant une chose, une autre, etc. Et ils rejoignent, je dirais, dans l'exposition elle-même, une exposition qui va du côté de la scène primitive, je le dis vraiment en raccourci. Bref, toute parole est ourlée par du fantasme. Chaque fois que nous parlons, il y a quelque chose de la sexuation de celui qui parle et de son désir qui se met en place du seul fait qu'il parle. Parler est excitant. Excitant quand on arrive à mettre en jeu les fantasmes en question. Je ne suis pas actuellement excité en vous parlant. C'est une dénégation, ça me plaît beaucoup. Mais remarquez-le, quiconque parle déploie de la fantasmatique en même temps. Et donc, à partir de ce simple constat, qui est simplement lié, je dirais, à l'acte de prendre le nom, eh bien, vous voyez bien que ce n'est pas la concaténation des signifiants qui déclenche le désir, simplement comme ça, un signifiant renvoie toujours à un autre, etc., etc. Pas du tout, c'est pas comme ça que sont faites les phrases, d'abord. Une phrase, il y a un signifiant qui renvoie à un autre point, à condition qu'il y ait au début un sujet qui ait pris son nom. Voilà. Les phrases, ça se boucle. Il y a un capitonnage, c'est pas une concaténation indéfinie, donc le désir, il se situe où ? Il se situe au point du capiton, c'est-à-dire cette question de prise de nom. Il me reste 5 minutes, mais je vais terminer sur ce point-là, c'est-à-dire l'acte de la prise de nom comme capitonnage, un point d'ancrage d'un désir sans objet. Et voilà. C'est fini.
Alors, il y a des questions.
Vas-y. C'est ça que vous voyez.
Bon, alors, je prends la parole.